Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette session de vos nouvelles, le cardinal Fridolin Ambongo dans les viseurs de la justice congolaise, le procureur général près la Cour de cassation ordonne au procureur général près la Cour d'appel de Matete d'investiguer sur ce qu'il qualifie de comportements indociles dans les chefs du cardinal entraînant des faits infractionnels contre lui. L'ancien premier ministre Sami Badibanga retire sa candidature des élections sénatoriales qui auront lieu ce lundi. Dans un communiqué rendu public samedi à Kinshasa, les candidats sénateurs dans la province du Kasaï-Oriental dénoncent la corruption et l'instrumentalisation des députés provinciaux par leur parti politique. Dernière semaine du mois d'avril, l'humanité célèbre la semaine de la vaccination, occasion pour les centres de santé de Lubumbashi d'organiser des séances de récupération des enfants en conflit avec les calendriers vaccinaux. Nous en parlons dans ce journal avec le médecin directeur du centre de santé de référence Mumbunda 2, l'un des centres concernés. Bonsoir. Justice, un dossier à charge du cardinal Fridolin Ambongo est ouvert au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le procureur général près la cour de cassation ordonne au procureur général près la cour d'appel de Matete d'investiguer sur ce qu'il qualifie de comportements indociles entraînant des faits infractionnels contre les cardinals. Jeff Ngoy.
Par sa lettre du 27 avril, Firmin Vonde acquise l'archevêque catholique de violenter délibérément les consciences et de trouver un plaisir à travers la propagation des faux bruits et incitation des populations à la révolte contre les institutions établies et attentats contre les vies humaines. Selon le procureur général, au moment où le pays fait face à la guerre dans sa partie orientale, il s'observe dans les comportements du prélat une constance des propos séditieux tenus lors de points de presse, interviews et sermons de nature à décourager les militaires des FRDC qui combattent au front, mais aussi incitatifs à la maltraitance par les rebelles et autres envahisseurs des populations locales déjà meurtries par autant d'armées de déstabilisation. Invité à son office le 25 avril pour un échange autour de certains dossiers en instruction, Ambongo a décliné l'invitation, peut-on lire dans la lettre du procureur. Pour tous ces faits répréhensibles, le parquet général près la cour de Matete ouvre donc une information judiciaire contre le cardinal.
Justice toujours, une autre information est celle ouverte par le parquet général près la cour de cassation à charge de ministre des Finances Nicolas Kazadi, celui du développement rural François Rubota et Guy Mikulu. Selon le parquet, c'est en rapport avec l'affaire du détournement présumé des fonds destinés au forage d'eau dans le but d'empêcher que les trois personnes accusées de détournement des deniers publics ne puissent se soustraire des poursuites judiciaires engagées contre elles. Les procureurs général Firmin Vondé enjoint depuis le 27 avril à la Direction générale des migrations d'instruire tous ses services œuvrant au poste frontalier d'interdire ces personnes de sortir du pays et de Kinshasa où elles sont tenues de répondre devant l'organe de la loi. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, entame demain une visite officielle à Paris, en France. Mais déjà ce dimanche, le chef de l'État est arrivé à Berlin où il est prévu une rencontre cet après-midi pour quelques heures avec les chanceliers allemands. Écoutez à ce sujet Tina Salama, porte-parole du président. Elle est jointe par Martin Sebujangwe.
Le président de la République arrive d'abord à Berlin pour un court séjour de quelques heures où il sera reçu par le chancelier Olaf Scholz à la chancellerie fédérale, bien évidemment. Il sera question de discuter sur ou de revenir, on va dire, sur les relations économiques entre les deux pays, la RDC et l'Allemagne donc. Comme vous le savez, la RDC a rejoint l'année dernière le G20 Compact with Africa en tant que 13e pays. Et donc ici, voir comment le pays, notre pays, la RDC, peut bénéficier davantage d'investissements privés. Et bien évidemment, la situation à l'est du pays sera également évoquée. L'Allemagne l'a dit récemment, réaffirmer ou réitérer son soutien à la non-violation de l'intégrité territoriale de la RDC.
« En politique, l'ancien premier ministre Sami Badibanga retire sa candidature des élections sénatoriales qui auront lieu ce lundi. Cette décision est contenue dans un communiqué qu'il a rendu public samedi à Kinshasa. L'autorité morale des progressistes et candidats sénateurs dans la province du Kasaï oriental dénonce la corruption et l'instrumentalisation des députés provinciaux par leur parti. Ces derniers ne sont plus libres de leur choix. Esther Ndalafina.
Dans sa déclaration, l'ancien premier ministre montre son attachement et son engagement aux valeurs démocratiques. Sami Badibanga évoque les failles du processus électoral actuel qui semble enclin, je cite, à la corruption et à d'autres pratiques illégales contrairement aux élections justes et transparentes. Ce n'est pas tout. Il dénonce également les manœuvres des partis et regroupements politiques tendant à contraindre les députés provinciaux à voter pour tel ou tel autre candidat. Ceci entrave, dit-il, la liberté de conscience et leur capacité à représenter dignement les intérêts du peuple. L'ancien premier ministre dénonce aussi dans la foulée ses inquiétudes par rapport à la crédibilité, l'impartialité et l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La révision des arrêts publiés récemment par la Haute Cour, en violation de l'article 168 de la Constitution, émet des doutes sur la crédibilité et le bon fonctionnement de cette instance judiciaire décrié par l'opinion publique. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, au Grand Équateur, 3 des 5 provinces organisent ce lundi leurs élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs. Partout à la Mongala, au sud d'Ubangi et à la Chuapa, les décors sont déjà plantés. La CENI a déjà prépositionné la logistique nécessaire et les personnels pour le bon déroulement des scrutins. Élections cependant reportées au 8 mai à l'Équateur à cause de la non-installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Tandis qu'au mois de juin, au nord d'Ubangi, en attendant les députations nationales et provinciales pour les territoires des Yakoma. Retour sur l'ambiance préélectorale dans les 3 provinces avec notre correspondant régional Paul-Richard Malengela.
D'abord à Lissala dans la Mongala, a indiqué le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Norbert Mandima, tout s'est passé dans le respect des consignes de campagne devant les députés provinciaux. Des 5 candidats qui convoitent le gouvernorat, il y a notamment l'ancien vice-gouverneur Serge Mongoulou. Mais un candidat sénateur Mbotama s'est désisté sur le 38 en lice. C'est à la suite du mot d'ordre de son parti du DPS, a-t-il dit. À Gemena dans le sud d'Ubangi, outre devant les députés provinciaux, les 6 candidats gouverneurs ont également défendu leur projet de société devant le Conseil provincial de la jeunesse. Parmi eux, le gouverneur sortant Jean-Claude Mabenze. Mais la mission nationale de la CENI est déjà en place avec la logistique requise. Ce dimanche, un briefing a eu lieu pour familiariser les grands électeurs à ce scrutin jumelé, mais aussi avec les autorités sécuritaires de la province, a dit le chef Bézard Libéke. Enfin, la même ambiance sereine est observée à Boindé dans la Chopa. Confirmation de la CEP Clarisse Wongola.
Nous croyons que demain ça va se passer dans les termes. Oui, la campagne s'est bien déroulée. C'était fini hier à 0h. Notre côté aussi, nous sommes prêts. Nos missionnaires sont déjà là. Le matériel, tout est fait déjà. Donc, nous aurons un travail avec les élus provinciaux pour essayer de leur montrer comment manipuler les machines.
Bon, d'accord. Prochain Malengela, Radio Okapi.
En globalité, 20 provinces de la République démocratique du Congo sauront ce lundi les noms des nouveaux dirigeants de ces entités administratives. Dans son communiqué rendu public ce week-end, la Commission électorale nationale indépendante CENI est revenue sur les dispositions pratiques pour le bon déroulement des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs et des sénateurs. Chaque secrétariat exécutif provincial de la CENI et l'Assemblée provinciale s'accordent sur les lieux du déroulement des votes, qui peut être soit les sièges provinciaux de la CENI, soit les installations de l'organe délibérant. Esther Ndalafina nous fait le point.
Dans ses communiqués, la CENI précise le bureau de vote ouvre à 9h et ce, après la tenue de la session de l'Assemblée provinciale pour la vérification du quorum. Un procès verbal de constat de quorum est transmis au représentant du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Celui-ci fait office du président du bureau de vote et de dépouillement. Les 2/3 des membres au moins qui composent l'Assemblée provinciale devront être présents et l'élection qui est au suffrage indirect se fait au scrutin secret majoritaire à deux tours. Mais au cas où le quorum n'est pas atteint, l'article 169 de la loi électorale stipule que l'Assemblée provinciale se réunit dans les deux jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. D'après la CENI, l'ensemble des opérations de vote et de dépouillement ne peut durer que 5 heures du temps. Les députés provinciaux qui se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer seul le vote ont le droit de se faire assister par toute personne de son choix ayant également la qualité d'électeur, c'est-à-dire son collègue député provincial. Ce dernier ne peut en aucun cas communiquer les choix opérés par celui-ci. Après le vote intervient directement la publication des résultats et le procès verbal des opérations conforme au modèle de la CENI et dresser séance tenante en 4 exemplaires avec la signature des membres du bureau de vote et de dépouillement ainsi que des témoins présents.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, une accalmie est observée ce dimanche dans l'agglomération de Kibirizi, chez Ferry de Buito, en territoire de Rutshuru. Ceci après des violents combats ayant eu lieu samedi entre les volontaires pour la défense de la patrie et les rebelles du M23 en plein centre de la cité. Par ailleurs, des cas de pillage des biens appartenant à des particuliers sont signalés dans cette entité et dans les localités environnantes. Chris Mukand.
Des sources indépendantes dans le territoire de Rutshuru rapportent des cas de pillage systématiques dans les groupements sous occupation du M23 RDF dans la chefferie de Buito. Du bétail a été importé et des boutiques d'alimentation vidées de leurs articles. Les localités affectées sont Bambo Centre et Kishiché dans le groupement de Bambo, Boutaré en groupement de Tongo et Kabizio, Rushovu, Rushege, Kanaba, Amutanda. Les agglomérations de Kibirizi, Bualanda et Kikuku ne sont pas non plus épargnées. Ainsi, il n'est pas facile de savoir avec précision qui s'adonne à ces actes de pillage. Même si cette région est sous occupation des rebelles du M23, il n'est pas exclu que d'autres individus puissent tirer profit de la panique de ce climat d'insécurité permanente pour soustraire des biens appartenant à des particuliers. Il y a dans la zone des jeunes gens qui détiennent des armes sans qu'ils appartiennent pour autant au Azalendo ou au M23 et qui se livreraient à des actes de pillage. À défaut d'avoir réussi à quitter le Buito, les familles restées sur place subissent le diktat de toutes ces bandes armées, indiquent nos sources dans cette partie du territoire de Rutshuru. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Et puis, une équipe de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est attendue ce mardi 30 avril dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba pour une enquête sur les terrains en rapport avec l'utilisation des enfants dans les mines du cobalt. L'occasion faisant les larrons, cette équipe va palper du doigt les acquis et réalisations du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabeya Cobalt, un projet du gouvernement de la RDC, financée par la Banque africaine de développement. À marge de cette descente, une séance de travail a été organisée samedi 28 avril, 27 avril, au siège du projet à Kinshasa. Les professeurs Eyal Ebosela et Kakol, commissaire national aux droits de l'homme en charge des droits socio-économiques et culturels au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, en parle au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous avons reçu beaucoup d'informations au sujet de la présence des enfants dans les mines, avec des chiffres exorbitants. Faire travailler les enfants dans les chaînes de production, d'exploitation des mines, c'est une violation des droits de l'homme. Nous, étant conseillers du gouvernement, la CNDH, nous ne pouvons pas être indifférents de cela. Nous nous sommes dit qu'il faut aller sur le terrain et vérifier la situation. Et Pabeya Cobalt étant un mécanisme que l'État a mis sur place pour que on éradique ce phénomène, nous sommes dit, il faut les voir parce qu'ils sont déjà là, ils font le travail. Ils sont à quel niveau? Il faudrait que nous échangions avec eux, mais aussi que nous descendions sur le terrain et voir un peu les auteurs des violations des droits de l'homme, auteurs physiques et moraux, et voir un peu ce qui pourrait s'en suivre après que nous soyons descendus sur le terrain. Et Pabeya Cobalt était bien approprié parce qu'ils sont déjà là. C'est un mécanisme de l'État. Nous étions très contents de changer avec le ministre des Affaires sociales qui est à la tête de ce comité de pilotage.
Pour sa part, la coordonnatrice de l'unité des coordinations de ces projets, qui est en même temps directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux, Maître Alice Mirimo-Kabeti, salue cette implication de la CNDH tout en préconisant la mise en place des mécanismes de surveillance et d'alerte contre l'utilisation des enfants dans les mines. Remise officielle ce samedi des infrastructures scolaires construites dans le cadre du programme de développement de 145 territoires à Sangé, dans les territoires d'Ouvira, au sud Kivu. Ces infrastructures vont permettre à plus de 800 élèves d'étudier désormais dans les conditions acceptables. Ces infrastructures font la joie des communautés locales, de la société civile ainsi que les autorités scolaires. Les détails avec Jean-Pierre Elali Koko, notre envoyé spécial.
C'est dans cette ambiance que les 808 élèves de l'école primaire Kijaga du quartier Kibogoi à Sangé, à une trentaine de kilomètres d'Uvira, ont exprimé leur allégresse et leur reconnaissance au président de la République lors de la remise du nouveau bâtiment scolaire. Selon le directeur de cet établissement, Kibembe Ferdinand, l'impact de cette nouvelle infrastructure est réel.
On avait l'objectif de 253 élèves. Mais pour le moment, parce qu'ils ont fait cet bâtiment, on tourne 808 élèves.
Même satisfaction dans les communautés locales, voire dans la société civile. L'ingénieur Crispin Kassingouvou de Procom, entreprise d'exécution, livre ici les données techniques de l'ouvrage.
Dans le bureau, il y a d'eau, le bureau de directeur, salle de réunion et le salle de professeur. On construit aussi 6 salles de classe qui mesurent 7 sur 8 et qui sont équipées.
Notons que selon le PNUD, partenaire de mise en œuvre sur les 96 infrastructures destinées au sud Kivu, 73 sont en cours d'exécution. D'Ouvira, Jean-Pierre Elali Koko, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis la mi-mars, les inondations et les fortes pluies au Kenya ont causé la mort d'au moins 70 personnes, selon les porte-paroles du gouvernement, un chiffre deux fois plus élevé que les rapports initiaux. Samedi, 8 corps ont été récupérés dans une rivière du comté de Makueni, à l'est du pays, après qu'un camion transportant des passagers a été emporté par un pont submergé. 14 autres personnes ont été secourues, ont rapporté des résidents locaux. Des témoins ont indiqué que les camions transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a tenté de traverser les ponts inondés, suscitant des craintes quant au nombre potentiel des victimes supplémentaires lorsque les eaux se retireront.
L'invité.
La dernière semaine du mois d'avril, l'humanité célèbre la semaine de la vaccination. À Lubumbashi, à cette occasion, les centres de santé organisent des séances de récupération des enfants en conflit avec les calendriers vaccinaux. C'est le cas du centre de santé Mumbunda 2 dans l'aire de santé de Mampala 1 dans la zone de santé de Mumbunda. Comment s'organise la récupération des enfants sous-vaccinés ou à zéro dose? Réponse avec les médecins directeurs du centre de santé de référence Mumbunda 2. Docteur Olivier Mwempou est notre invité. Il s'entretient avec Vanessa Kongolo.
Docteur Olivier Mwempou, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes pendant la semaine africaine de vaccination. C'est quoi l'objectif de la récupération des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal?
Merci beaucoup madame. Comme vous venez de le souligner, nous sommes pendant la semaine africaine de la vaccination. Et aussi, nous devons signaler que c'est le 50e anniversaire de la vaccination. L'objectif, c'est arriver à réduire les taux d'abandon et aussi améliorer la couverture vaccinale au niveau de notre aire de santé. Je voudrais également préciser que nous sommes dans une aire de santé, à Mampala 1, de la zone de santé Mumbunda, dans la division provinciale de la santé du Haut-Katanga.
Alors, est-ce que dans votre aire de santé, vous avez pu récupérer les enfants qui sont en conflit avec le calendrier vaccinal?
Oui, la récupération des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal, je peux le dire, c'est une activité presque continuelle ou régulière, dans le sens que à chaque fois que nous organisons une séance de vaccination, nous listons d'abord les enfants ou les attendus par antigène, et à la fin de la séance de vaccination, nous essayons de vérifier si tous les attendus ont répondu présents à leur rendez-vous. Et dans le cas contraire, nous utilisons les relais communautaires pour aller les chercher dans la communauté avec les jetons de récupération. Ce qui fait que nous récupérons d'une manière régulière les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal.
Quels sont les risques que courent les enfants qui n'ont pas pu prendre régulièrement ou selon les règles leur vaccin?
Ce que nous devons savoir, c'est que la vaccination ou les vaccins, c'est un traitement préventif. Et même quand nous sensibilisons, c'est juste une sensibilisation sur le maladie à prévention vaccinale. Et si l'enfant n'arrive pas à prendre correctement les vaccins ou à respecter le calendrier vaccinal, nous comprendrons tout ce que l'enfant est exposé à développer le maladie évitable, bien sûr, par la vaccination. Prenons le cas de la rougeole. Un enfant qui n'a pas été vacciné contre la rougeole, il peut faire la rougeole et les complications seront vraiment très sévères. Comparativement à celui qui a été vacciné contre la rougeole, il peut faire la rougeole, mais les complications seront vraiment modérées comparativement, bien sûr, à celui qui n'a pas vraiment reçu le vaccin.
Alors, nous sommes pendant la semaine de vaccination. Est-ce que, au sein de votre aire de santé, vous avez pu organiser des activités de sensibilisation pour arriver à récupérer les enfants qui n'ont pas pu avoir les vaccins?
Oui, notre souci est de sensibiliser beaucoup plus la communauté sur le maladie à prévention vaccinale. C'est comme ça que nous avions eu à utiliser les relais communautaires, bien sûr dans les CAC, pour cette activité. Donc, nous sommes en train de sensibiliser la communauté. Une fois que les relais communautaires identifient les enfants dans différents ménages qui sont en conflit avec le calendrier vaccinal, ils leur donnent directement les jetons et programmer leur vaccination lors d'une séance qui sera en fait fixé avec le parent et tout ça. Donc nous faisons quand même quelque chose pour arriver à sensibiliser, à toucher toute la couche par rapport à cette semaine de vaccination.
Est-ce qu'il y a des conditions de récupération pour les enfants qui n'ont pas pu avoir leur vaccin?
Non, il n'y a pas de conditions.
Est-ce que c'est gratuit?
Oui, la vaccination est gratuite.
Pour ceux ou les parents qui vont vous suivre et qui ont des enfants qui n'ont pas reçu certaines doses de vaccins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que leurs enfants soient vaccinés?
Ce que nous pouvons demander aux parents qui ont des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal, c'est peut-être aller dans une formation sanitaire la plus proche, où ils peuvent facilement tirer des informations par rapport aux activités de vaccination, parce que le vaccin est distribué gratuitement dans les formations sanitaires et la communauté peut en bénéficier sans condition. Donc c'est juste demander aux parents d'aller dans les formations sanitaires le plus proche pour aller, bien sûr, se renseigner davantage dans le but de faire vacciner leurs enfants.
Docteur Olivier Moupon, je vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'information vespérale sur Radio Capi. Sa mise en onde était assurée par Alain Goy, supervisée et coordonnée par Jacques-Yves Molima et Jean-Désiré Kanyama. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.